c'est pas du vent. C'est pas du vent.
Luonto.
Le magazine de l'environnement. Sur RFI.
Bienvenue à ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième partie d'émission. Une grande campagne publicitaire inonde actuellement le métro parisien. McDonald's passe aux œufs de poule élevés en plein air pour confectionner ses burgers. Et visiblement, c'est un véritable argument marketing. La question du goût y est pour beaucoup, mais les consommateurs sont aussi de plus en plus sensibles à la question du bien-être animal. Les animaux seraient des êtres sentients, c'est-à-dire qu'ils ressentent la douleur, le plaisir et la souffrance. C'est en tout cas l'avis de ceux qui défendent la cause animale et qui sont de plus en plus nombreux à travers le monde. Élevage industriel, abattoir, animaux de cirque, souris de laboratoire, corrida, fourrure et gavage d'oie. La façon dont on traite les animaux est-elle le miroir de notre société? Les humains doivent-ils se réveiller et prendre conscience de leur rapport aux autres espèces? La cause animale en question, c'est le sujet de cette deuxième partie d'émission. Et pour en parler, nous sommes en studio avec Brigitte Gauthier, cofondatrice de l'association L214 et qui dénonce les conditions d'élevage et d'abattage en France. Bonjour.
Bonjour.
Également avec nous Corinne Peluchon, philosophe qui signe Manifeste animaliste, politiser la cause animale. C'est paru aux éditions Alma. Bonjour.
Bonjour.
Brigitte Gauthier, on parlait en introduction de la campagne publicitaire de McDonald's, mais ce ne sont pas les seuls à s'engager sur cette voie. Les Intermarchés français, les Mousquetaires ont déclaré aussi il y a quelques jours qu'ils ne commercialiseraient plus les œufs de poule élevés en cage. Et l'association L214, hein, dont vous êtes la cofondatrice, y est pour quelque chose.
Effectivement, donc avec L214, on s'est donné comme objectif déjà de montrer ce qui arrive aux animaux et puis finalement d'éliminer la cruauté que les humains exercent sur les animaux. Et on peut pas l'éliminer d'un coup, donc on essaye de la faire reculer. Un des moyens qu'on a, par exemple, sur les poules pondeuses, c'est d'éliminer la pire forme d'élevage qui existe aujourd'hui, qui est l'élevage en batterie. Donc ces élevages où les poules sont gardées dans des cages, les unes sur les autres, dans une promiscuité folle, qui les rend d'ailleurs complètement folles. C'est pour ça qu'on leur coupe un petit morceau du bec.
Et parce qu'elles sont agressives les unes avec les autres, sinon.
Ben voilà, quand vous êtes enfermé à plusieurs congénères dans un espace réduit, effectivement, ça accentue l'agressivité entre les animaux. Pour faire reculer cette cruauté, on a plusieurs leviers sur lesquels actionner. On peut compter sur les consommateurs qui peuvent faire des choix qui sont différents et qui peuvent avoir un impact moindre sur ce qui arrive aux animaux jusqu'à ne pas avoir d'impact du tout si on choisit par exemple une alimentation végane. On peut s'adresser aux politiques. Aujourd'hui, on voit qu'ils ont un petit peu les oreilles bouchées. Pour la plupart, il y a quelques trucs qui se passent, mais enfin, c'est tout à fait léger. Et puis, il y a les industriels de l'agroalimentaire auxquels on peut s'adresser. Et eux, ils mettent à disposition un certain nombre de produits. On peut leur dire, il y a certains produits aujourd'hui. Stop, les citoyens sont contre, hein, c'est le cas pour les poules élevées en cage de batterie. Il y a plus de 80-90% des gens qui sont opposés à l'élevage en cage des poules pondeuses. Et du coup, effectivement, on s'adresse aux professionnels de l'agroalimentaire et on voit que partout dans le monde, l'élevage en batterie est voué à disparaître et c'est tant mieux.
Mais alors, quand vous dites que vous vous adressez à ces entreprises pour qu'elles changent leur manière, leur stratégie marketing, vous avez une façon de faire quand même qui est un peu particulière puisque vous utilisez des vidéos chocs pour alerter les consommateurs.
Alors, les vidéos chocs, on les montrerait de toute façon, effectivement, pour montrer de quelle façon sont traités les animaux. Et effectivement, on a fait le lien à chaque fois sur l'approvisionnement, où est-ce que ces œufs allaient. Donc le dernier qu'on a montré, c'était en mai 2016, le GAEC du Péra, qui fournissait notamment les œufs Matines et puis d'autres grandes marques. Effectivement, cet élevage a fermé, puisque Matines s'est désengagé de cet élevage-là. Mais n'empêche qu'il existe encore tout un tas d'élevages en batterie. Et ensuite, on s'adresse au supermarché en disant, écoutez, l'élevage en batterie, les citoyens n'en veulent plus. Vous continuez de vous fournir, alors que vous avez aujourd'hui, on vous amène toutes les informations en main. Si vous n'agissez pas, nous, on va faire savoir que vous continuez d'utiliser des œufs de poule élevés en batterie. C'est ce qui s'est passé avec des grandes surfaces qu'on a déjà convaincues maintenant de stopper.
Là, présentement, on parle donc des élevages de poules pondeuses, mais Corinne Peluchon, vous êtes philosophe, donc vous prenez une certaine hauteur aussi sur ce débat, et vous êtes également l'auteur d'un manifeste animaliste. Pour vous, le combat doit se généraliser à toutes les espèces animales ?
Oui, alors le combat en faveur de la défense des animaux est aussi un combat pour plus de justice envers les animaux, c'est-à-dire de faire reculer cette cruauté qui est arrivée encore une fois à un niveau d'extrémité en raison du poids démographique mais aussi du système économique dans lequel nous sommes et qui génère des contre-productivités sur le plan environnemental puisque le coût de l'élevage industriel c'est horrible au niveau de l'environnement, des productivité au niveau social en raison des conditions de travail aussi des éleveurs ou des gens qui travaillent dans les abattoirs, etc. Et aussi parce que la société évolue et cette prise en considération du sort des animaux, eh bien, concerne de plus en plus de citoyens.
C'est-à-dire que vous voulez dire que quand on s'attaque à la question des animaux, en réalité, on s'attaque à la question de l'environnement et des humains qui vivent autour.
Oui, de la société, d'un modèle de développement et j'irais peut-être même plus loin, d'un modèle de civilisation. Puisqu'il y a quand même aussi, voyez, même ceux qui mangent encore de la viande, s'ils ouvrent les yeux sur les conditions de vie et de mort qui sont faites aux animaux dont ils consomment la chair, je pense qu'ils sont frappés de stupeur. Et la preuve, c'est que souvent, c'est caché. Et que tout le système de production de la viande, le marketing, et pas seulement dans la consommation carnée, mais dans d'autres, dans les loisirs, etc., fait tout à la faveur d'une distorsion de la communication pour masquer ce que nous faisons.
Est-ce que, quelque part, c'est pas un peu indécent de parler de la cause animale, du bien-être des animaux, dans un monde où la misère côtoie la malnutrition, les guerres, le manque d'accès aux soins, à l'éducation et au logement? Autrement dit, est-ce qu'il n'y a pas d'autres urgences à traiter, d'autres priorités? J'imagine que c'est une question qu'on vous pose souvent.
Alors, moi, j'ai consacré un livre précédent, Les nourritures, en 2015, Philosophie du corps politique, à la question de l'alimentation et notamment, il y a un chapitre sur la faim et la malnutrition. Il y a dans le monde 865 millions de personnes qui souffrent de faim et 2 milliards qui souffrent de malnutrition sur 7 milliards et demi. Or, la plupart de ces personnes qui donc souffrent de privations extrêmes, eh bien, vivent dans des pays où il y a des céréales, mais ces céréales sont produites et exportées pour le bétail américain. Américains et européens, et les terres sont accaparées. Une des raisons majeures de la faim et de la malnutrition dans le monde, c'est l'accaparement des terres et l'utilisation des céréales à destination du bétail américain et européen. Et donc, la consommation des pays occidentaux, de la consommation de produits animaliers, est en partie responsable du drame qu'est la faim, qui n'est pas du tout lié à un manque de nourriture, mais à une question de distribution et d'utilisation. Donc là, première réponse. Deuxième réponse, la question du coût environnemental de la viande. Si tout le monde mangeait autant de viande que des Occidentaux, eh bien, il faudrait 10 planètes. Ce n'est pas possible à l'échelle de 7 milliards et demi de généraliser ce mode de vie gourmand, donc en produits carnés et en énergie fossile. C'est non seulement une prise de conscience, mais aussi un appel à une innovation au niveau de l'alimentation, de la mode, de tout un tas de choses pour remplacer les produits animaux alliés par d'autres, mais aussi ces innovations passent par un retour aussi au savoir-faire des personnes et nos ancêtres, où il n'y a pas si longtemps que ça, nos grands-parents, et pour tous ceux qui nous écoutent en Afrique ou ailleurs, il y a des savoir-faire, des céréales, des traditions culinaires qui ne nécessitaient pas autant de viande, et les gens s'en portaient pas plus mal au niveau même de leur santé. Donc vous voyez ce lien.
La viande la table.
Pour nous écrire,
la viande par terre.
C'est pas du vent, @rfi.fr.
La viande.
La cause animale en question, c'est notre sujet d'aujourd'hui. Et s'il y a une forme de maltraitance animale qui fait couler beaucoup d'encre, c'est celle des conditions d'abattage. L'abattoir est en effet le véritable emblème de l'industrialisation de notre alimentation aujourd'hui. Henry Ford a d'ailleurs inventé le montage à la chaîne après avoir visité un abattoir à Chicago. D'un coup, cela lui est apparu comme une évidence. Et oui, si on peut démonter les animaux, on peut bien, à l'inverse, monter des voitures. Sauf qu'il s'agit ici d'êtres vivants. Reportage donc dans un abattoir dans l'ouest de la France, dans lequel travaillent une centaine d'employés. C'est le seul abattoir à avoir accepté notre venue, malgré de très nombreuses sollicitations. Mais en échange, ils ont demandé l'anonymat, marché conclu et visite avec son directeur.
Donc avant de rentrer dans l'outil, on se lave les mains et on va se nettoyer les bottes dans un appareil conçu pour, de façon à ce que derrière on puisse aller directement dans les salles de travail. Donc Là, on va rentrer dans le hall d'abattage. Ici, donc, nous sommes dans les porcheries. Les animaux sont stockés dans des allées avec la possibilité de s'abreuver en attendant le passage sur la chaîne d'abattage. Après, on les passe lot par lot. On a une capacité de stockage d'à peu près 600 porcs, qui correspond à un peu plus de 2 heures de tuerie. On est un peu limité, on a un projet d'agrandissement pour travailler sur le bien-être animal, c'est-à-dire que pour que les animaux qui viennent sur le site soient moins stressés. La baisse de stress interviendra par une période de repos qui sera entre 2 et 3 heures avant de rentrer sur la chaîne d'abattage, où là, bien sûr, la finalité, c'est quand même la mort. Actuellement, là, on est en train de passer les porcs au niveau du restreiner. Sur le site de Laval, il existe plusieurs sortes de mise à mort en fait, de l'animal, soit une mise à mort électrique, soit une mise à mort au gaz CO2. Ici, sur le site, c'est une mise à mort électrique. Donc, les animaux sont électrocutés, ce qui crée une mort clinique. Et après, la véritable mort intervient au niveau de la saignée.
Diminuer encore la souffrance de l'animal.
C'est très compliqué. Actuellement, il y a des recherches qui n'ont pas abouti sur d'autres méthodes que celles que l'on connaît pour le moment. Donc il y a toujours un peu de stress, le fait de les amener, vous voyez, là on les amène de façon relativement douce. Il y a toujours des réactions de certains porcs par rapport à d'autres. Enfin bon, les animaux ne sont pas bousculés et sont amenés directement vers le piège tranquillement. Voilà, vous allez voir, donc l'animal... est électrocuté par un système de pinces. On va le voir apparaître en sortie. Donc deux électrodes qui lui envoient un courant et qui le mettent en ce qu'on appelle une mort clinique.
Donc l'animal descend après sur une espèce de toboggan, il arrive sur un tapis roulant.
C'est le tapis de saignée. Donc là, on saigne l'animal au cœur et la véritable mort arrive à ce niveau-là. Mais étant donné qu'il est dans cette constitution d'anesthésie, l'animal ne souffre plus.
Aujourd'hui, c'est 260 porcs à l'heure. Hein. Alors quand on parle aux gens de ces cadences-là, ils ne s'imaginent pas les animaux qui peuvent être tués à la vitesse, à une vitesse grand V. Hein. Bon, on a un cœur comme tout le monde, mais aujourd'hui, on fait ce métier-là et on n'y pense pas trop. Hein.
Have you seen the little biggies crawling in the dirt? And for all the little biggies, life is getting worse. Always having dirt to play around in.
Brigitte Gauthier, vous êtes la cofondatrice de L214, une association donc qui milite depuis 2008 contre les conditions d'abattage comme celles qu'on vient d'entendre. Concrètement, qu'est-ce que vous réclamez, vous, aujourd'hui, comme réglementation ?
Alors, ça va plus loin que juste une simple réglementation. C'est vraiment justement ce dont on parlait, d'un changement de société, carrément d'un changement de civilisation. Je trouve que c'est le bon terme de reconsidérer notre position et de reconsidérer le fait qu'on considère aujourd'hui les animaux comme des ressources alimentaires à notre disposition, dont on dispose comme on veut, dans les images qu'on a montrées justement... qui résonne assez bien avec le reportage que vous avez fait. On voit des animaux qui résistent, hein, il le dit bien, ils se laissent pas emmener comme ça à l'abattoir, alors qu'on a tout fait tout pour. Hein. On a pris des animaux qui sont plutôt pacifistes, hein, qu'on a contraints par la force, avec des murs, avec des chaînes, avec des cages, à rester enfermés, qu'on emmène ensuite de force se faire tuer. Alors aujourd'hui, on peut essayer de faire reculer cette cruauté qu'on exerce à l'égard des animaux, mais comme le dit très justement cette personne qui vous fait visiter l'abattoir, c'est que aujourd'hui on est au max des techniques pour essayer d'abréger les souffrances des animaux. Et ces techniques, il en a parlé, hein, c'est la décharge électrique qui est utilisée dans cet abattoir, mais ça peut être aussi le gaz CO2, comme on l'a montré à Alès, cette nacelle qui descend dans une fosse de gaz et où on voit les cochons se jeter dans tous les sens pour essayer d'échapper à ce gazage. Donc pendant 30 secondes, ils agonisent, hein, littéralement. Donc c'est comme si vous vous noyez, sauf que c'est pas simplement une noyade, quelque part. Le gaz, en plus, il est... irritant pour tout le système respiratoire. Et puis, il y a le pistolet à tige perforante. Donc voilà, on peut essayer donc, à la marge d'essayer de mettre des pansements sur ces hectolitres de sang, donc retirer les pratiques dont on sait qu'elles sont les pires aujourd'hui pour les animaux. Donc on peut essayer de faire supprimer l'abattage au CO2 pour les cochons, notamment. On peut essayer d'interdire aussi l'abattage sans étourdissement, qui est reconnu là aussi par la Fédération des vétérinaires européens, mais le Conseil national de l'ordre des vétérinaires, comme une des formes les pires d'abattage. Mais il faut savoir que tous les animaux donc sont étourdis, qui est un mot bien gentil du coup pour parler de décharge électrique, de défoncement du crâne ou de gazage. Tous les animaux sont vivants au moment où on va planter le couteau pour faire couler le sang. Parce qu'on a besoin du cœur qui bat encore pour évacuer le sang. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui est ignoré, parce que parfois on a une image un petit peu fausse aussi de l'abattage sans étourdissement, en disant bah voilà, ils les égorgent quoi. Mais non, mais tous les animaux ont fait couler le sang.
Vous faites référence aux abattages abattages
rituels, donc cachère ou halal, effectivement, où les animaux, pas tous, hein, puisqu'il y a des abattages halal avec étourdissement, il y a beaucoup d'animaux qui sont tués aussi sans étourdissement. Donc voilà.
Donc pour vous, la solution, c'est de devenir végane, en fait. Ne plus rien consommer qui vient des animaux.
Quelque part, là, c'est une solution individuelle. Vous en parliez tout à l'heure. Est-ce que c'est pas prendre trop de temps? Ça prend pas de temps d'être végane. Ça prend pas de temps de refuser, d'arrêter la cruauté pour soi-même envers les autres. Donc ça, c'est fastoche. Là où on a fort à faire, c'est qu'on est sur un problème de société. C'est-à-dire qu'individuellement, on peut arrêter.
Mais donc, ça veut dire ne plus consommer de lait, ni de fourrure, ni de cuir, ni rien.
Voilà, ça change des pratiques alimentaires, des pratiques d'achat. Effectivement, on fait attention de prendre des produits, par exemple, cosmétiques qui ne sont pas testés sur les animaux, ou les produits d'entretien pas testés sur les animaux, qui ne contiennent pas de produits d'origine animale. Nous, ce qu'on a choisi, c'est vraiment de montrer, parce que les gens croient ce qu'ils voient. Au départ, nous, on distribuait des simples tracts, il n'y avait pas d'image dessus, enfin, ou quasiment pas, ou des images qu'on avait prises à droite à gauche, et on nous rétorquait souvent, oui, mais ça, c'était avant, ou alors, oh non, mais ça, c'est pas en France, c'est les Américains, vous rendez compte, machin. Aujourd'hui, ce qu'on montre, c'est des images qui se déroulent aujourd'hui, ici et maintenant. Et du coup, on n'a plus cet échappatoire de se dire, non mais ça c'est ailleurs, c'était avant, c'était machin. Non, c'est maintenant que c'est en train de se passer. Aujourd'hui, en France, rien que dans cette belle journée, il y a 3 millions d'animaux qui sont passés de vie à trépas dans les abattoirs en France, et des millions de poissons qui sont sortis des mers ou des bassins d'aquaculture pour les ressources alimentaires, juste pour les mettre dans nos assiettes ou pour prendre leurs produits, le lait, les œufs.
Corinne Peluchon, en même temps, l'exploitation animale permet de créer de nombreux emplois, notamment parmi l'élevage, qui est un des secteurs les plus pourvoyeurs d'emplois. Si on suit votre logique et qu'on devient tous véganes, que vont devenir les travailleurs de l'exploitation animale?
Alors moi, ma logique, c'est quand même de politiser la question animale, et où moi j'insiste beaucoup sur la transition et sur la reconversion. Et en particulier s'agissant de l'élevage, dans la mesure où tout le monde n'est pas encore prêt pour s'abstenir de produits animaliers, on peut déjà d'ores et déjà avoir un volontarisme politique et mettre en place des mesures, des aides logistiques et financières pour aider les éleveurs qui travaillent dans l'intensif à passer à un système plus extensif, c'est-à-dire
ça, c'est
entre
la transition.
Ça c'est une mesure immédiate qui exige beaucoup. Parce que, évidemment, les personnes ne sont pas encore prêtes à payer plus cher le prix de la viande, mais où tout le monde serait gagnant, parce qu'il y aurait plus de qualité, et où ça suppose des aides logistiques et financières pour les éleveurs, pour combler le manque à gagner. Et c'est dans un travail visant à ce que tout le monde baisse sa consommation, mais aussi faire en sorte que ces personnes qui font un travail très difficile et sont souvent très mal payées puissent se reconvertir, parce que passer toute sa vie à tuer des animaux qui veulent vivre et qui résistent, ça rend fou, je veux dire, c'est très difficile. Mais moi, je propose un certain nombre de mesures qui sont applicables tout de suite, ici et maintenant, d'autres qui sont plus pour le long terme, et de toute façon, pour que de vrais changements de civilisation arrivent, ça ne se décrète pas, il faut travailler sur plusieurs fronts. Et j'ai un peu le discours de la méthode de cette politisation de la question animale.
Des questions, des témoignages, des idées, écrivez-nous à c'estpasduvent@rfi.fr.
Sur RFI. Dans certains pays, la question du bien-être animal est plus avancée que dans d'autres. C'est le cas de la Suède. Dans les années 80, le Parlement a voté des lois pour que les éleveurs tiennent compte du bien-être animal. Alors qu'il a fallu attendre 2003 pour que cette question franchisse le Parlement de l'Union européenne et soit traduite dans le droit. Un droit européen qui n'est pas appliqué dans la plupart des pays européens, notamment en France. Alors pourquoi ne pas s'inspirer du modèle suédois ? Reportage dans une exploitation de porc proche de la ville de Nortage, à environ 1h30 du nord-ouest de Stockholm. Dans cette ferme, les éleveurs n'utilisent pas de cage de gestation ni de cage de maternité, qu'ils considèrent comme de véritables prisons pour les truies, puisqu'elles les immobilisent complètement. Et ça permet ainsi de ne pas écraser les petits juste après la naissance. L'Arche Onesta nous invite à entrer dans son hangar pour nous expliquer qu'il y a en fait des alternatives.
Il y a des alternatives, être présent lorsque la truie met bas, être attentif et apprendre aux petits cochons à venir se mettre sous la lampe chauffante.
Là, elles sont presque dans un élément naturel.
Mais oui, c'est aussi proche de la nature que possible. C'est ce qu'on a voulu faire. On a essayé de reproduire ce qu'il y avait dans la nature. Et puis il y a cette paille. Dans des conditions naturelles, on peut dire que la truie se fait un lit ou un nid, je ne sais pas. Et là, avec la paille, c'est ce qu'elle se fait. Lorsqu'elle va mettre bas, elle se prépare un petit lit pour pouvoir mettre bas.
Et alors là, on voit la truie donc, qui s'est couchée sur le côté. Et c'est très drôle. Hein, elle a une dizaine de petits qui se sont précipités sur ses mamelles pour aller téter. Et elle est sagement en train d'attendre que ses petits aient fini de manger. Ça, cette vision-là, elle est propre à la Suède. C'est-à-dire qu'ici, l'animal est libre. En fait, la mère est libre de circuler, de s'allonger.
Je pense qu'avec ce système-là, c'est plus facile pour la mère de communiquer avec ses petits. Elle leur dit maintenant c'est l'heure de manger. Nous, on ne comprend pas, mais on le devine. Bien sûr, c'est un risque. Elle pourrait écraser ses petits. Ça arrive, bien sûr, mais en même temps, elle a des yeux, elle peut voir, elle a de l'espace et on voit qu'elle est prudente, elle fait attention où elle met les pieds, vous l'avez vu.
Donc vous êtes prêt à prendre le risque qu'il y ait des pères, c'est-à-dire que dans le reste de l'Europe, si on utilise ces fameuses cages de maternité, c'est pour éviter que les petits soient écrasés. Vous prenez le risque qu'il y ait des petits qui soient écrasés. Pour vous, c'est un sacrifice nécessaire ?
Det har vi gjort här sen 80-talet kan man säga. Det var ju då de här lagarna skärptes upp.
Oui, en fait, ce risque, nous l'avons pris depuis les années 80. C'est dans les années 80 que la législation a changé. Autrefois, nous avions nous-mêmes des truies qui étaient fixées dans la production. Et nous avons également eu une loi en 86 qui a interdit l'utilisation des antibiotiques pour que les cochons puissent grandir davantage. Et bien sûr, c'est pour le bien. Enfin, il y a du pour et du contre. Parce que pour que ça fonctionne, il faut que le consommateur suédois soit prêt à payer la différence, ça coûte plus cher. Ils ne le sont pas toujours, ils choisissent quelquefois de la viande danoise ou de la viande allemande qui est donc moins chère.
Corinne Peluchon, Brigitte Gauthier, on voit avec cet exemple suédois qu'il y a une prise de conscience qui s'est faite là-bas sur la question du bien-être animal. Comment vous pensez que dans le reste du monde, on va pouvoir impulser cette prise de conscience? Quels sont les moyens pour réveiller, entre guillemets, les gens sur ce qui vous paraît être un combat essentiel, comme vous venez de nous l'expliquer?
Que faire? D'abord passer aussi de la dénonciation à la proposition. Passer à des mesures positives ou montrer que la transition, la reconversion, l'innovation sont la chance, grâce aussi à la prise en compte des intérêts des animaux, de reconstruction sociale et politique.
Alors, il faut
et
préciser aussi que votre manifeste animaliste, hein, dont vous êtes l'auteur, c'est presque un programme politique pour les animaux. Hein. À la fin, vous énumérez un certain nombre de propositions
concrètes à destination de nos politiques, libre à eux de s'en emparer.
Quelles sont les plus urgentes pour vous ?
Il y a un certain nombre qui peuvent faire l'objet immédiatement, donc visant la suppression de pratiques qui sont inutiles et dont tout le monde s'accorde à reconnaître justement de leur inutilité, c'est-à-dire la captivité des animaux sauvages dans les cirques, la chasse à cour. L'Angleterre a supprimé, elle en est le berceau, la chasse à cour. En fait, comment faire ? Réconcilier l'humain avec lui-même. Moi, je pense que ça dégrade l'humain.
Merci Corinne Peluchon, Brigitte Gauthier pour votre participation. Merci également à François Porcheron qui a réalisé cette émission. Le week-end prochain, nous diffuserons le grand reportage d'Igor Strauss à Barni, une ville côtière du Sénégal à 30 km de Dakar. Ville menacée par trois fléaux, l'érosion côtière, la Socosim, une usine de ciment et une toute nouvelle usine de charbon. Rendez-vous donc le week-end prochain sur RFI, même planète, même heure.
Près de 3 millions de